en action pour le logement abordable et durable. À l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2025, Action Logement donne la parole aux élus locaux.
Bienvenue sur le plateau Action Logement au Salon des maires et des collectivités locales 2025, dont vous connaissez le thème, le meilleur en commun, c'est évidemment ce qu'on vous propose sur ce plateau. Comme chaque année, vous le savez, Action Logement est présent sur le salon, au plus près des élus, des partenaires, des parties prenantes et des filiales du groupe pour échanger sur les enjeux qui font votre quotidien. Vous l'aurez compris dans ce podcast, priorité au terrain, à la parole des élus, pour des retours d'expérience et des solutions innovantes, une manière, vous l'aurez compris, de partager avec nous votre mission d'intérêt et d'utilité sociale. Alors, on part dans le Nord, à Roubaix plus exactement, avec vous, Pierre-François Lazzaro. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous serez accompagné par Jérôme Sturla, le directeur du pôle développement urbain de l'AFEV, et David
Larbody.
Voilà, parce qu'il y avait une petite erreur sur votre nom. Au début, j'étais en train de la corriger tout seul. Larbody, directeur général de Claisance. Merci à vous.
Bonjour.
On va parler évidemment du logement des jeunes, qui est une priorité dans un certain nombre de territoires, et particulièrement peut-être à Roubaix. Vous allez nous dire pourquoi. Et puis, il y a un projet spécifique de co-living solidaire, notamment, et tout ce qui vous sera utile pour nous présenter un peu mieux votre commune. Et ma première question, elle est pour vous. Peut-être nous présenter, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et j'allais dire la ville de Roubaix, et le quartier dont vous êtes aussi le maire, je crois.
Tout à fait. Ben, merci pour votre accueil. En effet, Roubaix est une ville de la métropole lilloise, une ville de 100 000 habitants, divisée par quartier, forcément pour pouvoir avoir une efficacité un peu plus forte dans les services publics. Et donc, le projet dont on parle aujourd'hui, c'est dans les quartiers nord. C'est comme partout, c'est les meilleurs des quartiers, hein, les quartiers nord. Et voilà, ville particulière Roubaix, puisque 80 à 85% de quartiers en QPV, une population particulièrement jeune, plus de 50% à moins de 30 ans. Et avec quand même une profondeur un peu universitaire, puisqu'il y a 12 000 étudiants sur le territoire. Donc voilà, beaucoup de cases à cocher, beaucoup d'enjeux nombreux sur la ville de Roubaix, avec lesquels on échangera durant cette intervention.
Alors justement, sur un quartier, quand on est maire de quartier, de quoi on s'occupe? Parce que c'est souvent quelque chose qu'on ne connaît pas forcément dans des villes de cette taille. C'est quoi votre fonction au quotidien?
C'est les enjeux de proximité. Les enjeux du quotidien, les enjeux de la vie quotidienne des habitants, que ce soit évidemment la propreté, la sécurité, l'urbain, on va dire, du quotidien, mais c'est surtout réussir à faire un peu de stratégie pour faire évoluer le quartier dans le mieux, que ce soit dans le cadre des services publics, avec des services publics de proximité, des postes, des mairies de quartier, de la médecine de proximité, mais aussi avoir un enjeu un peu plus stratégique, réussir à avoir des enjeux de mobilité, réussir à amener le tramway, réussir à amener des choses comme ça, ou réussir à amener une rénovation urbaine, comme c'est le cas pour Roubaix, avec l'un des plus grands projets de rénovation urbaine en France, puisqu'il y a 400 millions d'euros qui sont investis.
Oui, j'allais dire, c'est pas rien. On sait que c'est des endroits où les territoires ont beaucoup bougé, il y a eu des changements, une histoire industrielle très riche, et puis des mutations dans tous les sens. Comment est-ce qu'on réinvente aujourd'hui, j'allais dire, la ville sur la ville? Est-ce que c'est une chance d'avoir autant d'espace, autant de moyens pour réinventer, ou c'est au contraire une contrainte et un enjeu spécifique?
L'avantage de pouvoir travailler sur une ville comme Roubaix, c'est de pouvoir repartir des écosystèmes qui existent. On a tendance à critiquer les quartiers, à avoir plein de défauts, mais le vivre ensemble, l'accueil des habitants sur des projets qui peuvent changer leur quotidien est souvent très très bien accueilli. Et donc le sujet, c'est réussir à utiliser cet écosystème, réussir à utiliser l'entreprise, les employeurs, réussir à utiliser les habitants, les services de proximité, et ça nous permet forcément, beaucoup plus facilement, de pouvoir avoir des projets qui fonctionnent. Et l'avantage qu'on a aussi à Roubaix, c'est qu'on fonctionne beaucoup en mode projet. Et donc, lorsqu'on est en mode projet, le fait d'avoir une transversalité, de pouvoir agir sur le logement, la jeunesse, l'enseignement supérieur, la qualité du quotidien, c'est comme ça qu'on arrive à changer les choses.
Alors, je suppose qu'il y a des enjeux sur les logements qui concernent un peu toutes les strates de population. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité, sur ce quartier en particulier, mettre l'accent sur la jeunesse? Vous évoquez la ville étudiante, mais est-ce qu'il y a une nécessité peut-être de réimplanter, de refaire venir des jeunes? Pourquoi spécifiquement ce sujet?
En fait, il y a une notion qu'il faut pouvoir prendre en compte et qu'on oublie trop souvent, c'est que les gens dans les quartiers pauvres ont le droit à du beau. Alors on a tendance à dire ce serait tellement plus simple de ne rien faire et de les laisser un petit peu vivre dans leur quartier parce qu'ils ont leurs habitudes, etc. Mais c'est extrêmement important de pouvoir implanter des choses nouvelles, réussir à y amener des jeunes, réussir à amener de l'engagement associatif, réussir à y amener de l'enseignement supérieur, juste pour qu'on puisse considérer que ça existe. On a une population très jeune à Roubaix, mais en plus de ça, on a une population qui va malheureusement très peu dans l'enseignement supérieur. Réussir à amener des étudiants dans les quartiers nord, c'est aussi la capacité des gens de voir des étudiants, de voir que c'est possible. Et donc, dans des quartiers qui parfois additionnent les difficultés, c'est bien de pouvoir relever un petit peu le champ des possibles, et c'est dans le cadre du logement associatif, du logement pardon, étudiant, c'est le cas aussi de l'associatif et de l'engagement étudiant, c'est dans des moments comme ça où on se rend compte que c'est possible. Et donc c'est pour ça que ça a été fait dans les quartiers nord, tout particulièrement, évidemment parce qu'il y avait des zones d'aménagement qui rendaient ça possible, mais surtout, le public avait un accueil très favorable à ce genre de projet.
Alors il faut beaucoup de partenaires, il faut beaucoup de coordination, il faut des bailleurs sociaux, il faut des financeurs, il faut des porteurs de projets, puis il faut aussi des experts d'un certain nombre de sujets, et c'est pour ça que je me tourne vers vous, Jérôme Sturla. Vous êtes directeur du pôle développement urbain de l'AFEV. Peut-être, pour ceux qui ne connaîtraient pas, nous rappeler ce que c'est que l'AFEV et son rôle.
Alors l'AFEV, c'est une association nationale qui a plus de 30 ans d'existence maintenant. Sa vocation est de favoriser l'intervention d'étudiants bénévoles dans les quartiers prioritaires qu'évoquait Pierre-François Lazzaro tout à l'heure, avec un programme phare qui est le mentorat éducatif, c'est-à-dire que ce sont des étudiants qui, 2 heures par semaine, principalement au domicile des familles, accompagnent des jeunes dans leur parcours éducatif. Et que donc ça représente 20 000 jeunes donc, sur tout le territoire national. Depuis, la FEV a grandi, puisque c'était le programme originel. On a développé notamment ce programme qui s'implante aujourd'hui à Roubaix, qui est un programme de colocation à projet solidaire, c'est-à-dire que la FEV, via ses partenariats et notamment les bailleurs sociaux, propose du logement abordable en colocation à des étudiants, et qui, en plus de bénéficier de cette offre, donnent 4 à 5 heures de leur temps dans des actions de solidarité sur le quartier d'implantation des CAPS. Donc ça a la vertu, bien sûr, de revitaliser, de dynamiser la vie sociale d'un quartier et permettre à des publics de bénéficier aussi de la richesse et de la ressource étudiante. Mais à l'inverse, c'est aussi pour les étudiants une expérience qu'ils pourront capitaliser dans leur trajectoire d'insertion professionnelle future.
Une dimension et un impact social au-delà
à la fois un impact social pour les publics concernés, mais un impact social aussi pour les étudiants. Dans un contexte, aujourd'hui, il y a près de 1 700 000 étudiants qui décohabitent, alors que l'offre dédiée au logement étudiant est de 400 000.
Comment est-ce qu'on explique d'ailleurs ce décalage ? Alors il y a évidemment la tension, le logement, tout ce qui est compliqué aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ça a l'air d'être encore plus compliqué pour les étudiants ? C'est des problèmes de pérennité, d'offres, de prix
C'est un problème d'offres, puisque je vous dis 400 000 logements étudiants sur le marché dédiés aux étudiants pour 1 700 000 jeunes qui décohabitent. Je vous laisse faire le calcul que sur ces 400 000, vous en avez 200 000 qui sont gérés par le CROUS, donc qui s'adressent plutôt à un public qu'on va qualifier de très social. Que l'autre offre de logement est une offre de logement qui a des tarifs qui sont inaccessibles pour un certain nombre de catégories sociales, sachant que le revenu moyen d'un étudiant, c'est 1 000 euros. Ce qui consacre au logement, potentiellement, c'est 600. Donc quand on a l'occasion d'avoir des bailleurs sociaux tels que Plaisance qui ont compris que construire une offre de logement qui soit abordable, là, si on parle de Roubaix, c'est 80 lits en colocation qui représentent 21 appartements, avec un tarif avant APL de 400 à 350 euros. Donc si on resitue ça dans la problématique que je viens d'évoquer, on est là bien sur une cible de jeunes étudiants qui, s'ils n'avaient pas cette offre-là, pour beaucoup, ne poursuivraient pas et n'accéderaient pas à l'enseignement supérieur.
Alors on a parlé de vous déjà en bien, hein, Didier David Larbordi, directeur général de Plaisance. Peut-être vous présenter Plaisance en quelques mots, et puis justement votre valeur ajoutée, la spécialisation que vous avez sur ces sujets.
Oui, alors Plaisance, c'est le fleuron d'Action Logement dans les Hauts-de-France. Voilà, c'est un acteur aujourd'hui qui pèse 55 000 logements, présent, on va dire, de Lille jusqu'à Meaux, puisqu'on a une partie quand même de notre activité qui est aussi un peu en Île-de-France. Mais notre objectif aujourd'hui, c'est plutôt de monter dans le nord, comme on dit. Et donc, on est effectivement à s'implanter progressivement et de plus en plus dans la Melle. Alors, notre rôle, nous, c'est un rôle un peu de catalyseur de tout ça, parce que Au fond, un logement, à un moment donné, il doit se matérialiser. Hein. Ce sont bien des murs, un toit, une porte, des... voilà. Et donc, le rôle du bailleur social, c'est d'apporter sa pierre, sans jeu de mots, et de contribuer à faire en sorte que l'ensemble de ce partenariat puisse, à un moment donné, donner des sens à des résidences de cette nature. Et donc, on n'est pas simplement, nous, bailleurs, classiquement monteurs de murs ou couleurs de béton, comme on le dit parfois dans la profession, on est aussi acteurs de la transformation urbaine. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a des enjeux, on comprend qu'il faut aider les collectivités à résoudre des problèmes de logement des jeunes. Et donc, sur ce projet-là, spécifiquement, sur l'îlot Saint-Joseph, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas, monsieur le maire.
Tout à fait.
Sur la ZAC de l'Union, Action Logement, en particulier Clésence, s'est positionné comme étant celui en capacité de faire. Et de faire et d'investir, puisque juste pour vous donner un chiffre, c'est 15 millions d'euros d'investissement pour un ensemble aujourd'hui de 248 logements, ce qui est évidemment un ensemble assez, assez colossal. Voilà, donc là où la vie et la ville se réinventent, Clésence souhaite être là.
Alors je suppose aussi, et quand on parle de ces types de populations, il y a une dimension très forte d'accompagnement. Hein. Souvent, je vois, on a beaucoup parlé par exemple des logements, des alternants, des apprenis, qui sont des jeunes qui ont besoin d'être aider un peu. Là, c'est aussi le cas. Il y a des structures, des sociétés. C'est très inclusif comme conception du logement et du vivre ensemble, quelque part.
Tout à fait. Dans ce côté vivre ensemble, lorsqu'on revient vraiment sur le lieu, l'îlot Saint-Joseph dans lequel on est, non seulement il y a des colocations étudiantes, mais juste à côté, il y a un stade de foot, le stade de foot Barbe d'Or, avec une association sportive. Juste à côté, il y a une école. On est en train de rénover les bâtiments dans le cadre de la rénovation urbaine. Et en fait, on voit bien qu'il y a un milieu associatif qui est aussi en attente un petit peu de retrouver des nouvelles personnes, de retrouver un nouveau souffle. Et donc, c'est aussi ça qui est agréable, c'est de dire, bah, quelque part, Clésence ramène pas que le béton, mais aussi l'investissement, etc. La Fèvre réussit à amener le système qui va bien pour réussir à avoir des tarifs intéressants pour les étudiants. Nous, la seule chose qu'on pouvait et qu'on voulait ramener, c'était cette capacité de vivre ensemble et cette capacité de proximité. Et donc, l'un dans l'autre, on a réussi à tous y trouver notre compte.
Avec quelque chose qui est important, que vous avez évoqué, et qui est aussi, je pense, une des nouvelles manières de faire, c'est de faire du beau, de faire du qualitatif, de faire du durable, parce qu'il faut, vous l'avez dit avec vos mots, mais particulièrement dans ces endroits un peu moins favorisés, il faut faire quelque chose qui rattrape presque un peu le retard, si je veux dire. C'est un peu ça aussi.
Je vais vous donner une anecdote qui fera plaisir à monsieur le maire. C'est que quand on a commencé à commercialiser les logements à Roubaix, autant vous dire, et là, c'est pas faire offense aux élus de Roubaix, dire que dans l'imaginaire et la représentation a priori, c'est pas Roubaix où il y a une attractivité première.
Majeure.
On a un certain nombre de jeunes qui avaient des problématiques de recherche de logement à Lille, à qui on a proposé des logements à Roubaix, qui au départ devait être transitoire en disant comment tu es en début de commercialisation, tu peux rester 2 mois ici, et puis quand tu auras trouvé quelque chose à Lille, tu retourneras à Lille. Et en fait, ce sont des étudiants qui sont restés dans les colocations de Roubaix au regard de la qualité de la production et de l'offre de logement qui est proposée sur Roubaix.
David Larbody, c'est important aussi à la fois parce que c'est la dignité des personnes et puis parce que c'est comme ça aussi qu'on valorise, peut-être qu'on pérennise, qu'on installe les populations. C'est à la fois de travailler architecturalement sur des choses qualitatives, mais aussi des choses qui sont très liées à toute la nouvelle dimension, transition, rénovation, sont des bâtiments aux dernières normes ou le plus possible. C'est aussi ça qu'on met en avant quand on veut reconstruire la ville.
C'est la signature aujourd'hui des bailleurs sociaux, c'est-à-dire c'est de faire du beau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je mets au défi quelqu'un de s'arrêter devant un bâtiment construit par un bailleur social et qu'instinctivement, les gens disent c'est du logement social. Non, aujourd'hui, on est encore dans l'imagerie collective à ces bailleurs sociaux, on fait du cheap ou du bas de gamme. Plus du tout, c'est fini tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, quand moi je suis allé voir ce projet, puisque je ne l'ai pas porté, je ne suis pas à l'initiative, puisque ça a démarré en 2021 et j'ai pris mes fonctions en 2024, je suis allé l'inaugurer et quand je suis arrivé sur place, j'ai trouvé 248 logements avec une... avec une architecture absolument superbe. Et donc, c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à avoir aujourd'hui des logements qui plaisent et qui sont immédiatement pourvus. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème de peuplement dans cette résidence. Elle vit très bien et elle vivra très bien parce qu'effectivement, on a mis suffisamment de moyens pour que durablement, on ait un bâtiment qui soit joli et confortable à utiliser.
Et c'est aussi pour ça qu'on le peut le proposer à d'autres endroits. Je crois que vous avez des projets aussi sur Saint-Quentin, c'est ça, dans le même esprit.
Oui, bien sûr, mais c'est aussi la marque de fabrique de Claisance aujourd'hui, parce qu'on a une marque qui s'appelle Alter Ego, et on a aujourd'hui une réputation, notamment dans les logements un peu thématiques et spécifiques. Par exemple, en matière de logements pour les jeunes, on a 38 résidences aujourd'hui chez Claisance, et on gère 3400 logements. Enfin, on gère, on fait gérer comme à Roubaix. Mais à Saint-Quentin, oui, on vient de sortir une résidence de 83 logements dans l'éco-quartier du Maréchal Juin. Voilà.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite, et ce sera un peu le mot de la fin, monsieur le maire, de garder sur ce grand projet. On a parlé logement, mais évidemment, on pourrait parler aussi de services publics et d'équipement, parce que quand on repense la ville, il faut penser tout. C'est un peu cette vision globale, ces fameux services publics qui sont attendus par les populations.
Bah, toujours avoir un coup d'avance. Parce que quelque part, un projet comme celui dont on vient de parler a répondu aux besoins avant qu'on nous les annonce. Quelque part, lorsque Jérôme dit, les étudiants se disaient, pourquoi Roubaix et pourquoi pas ailleurs, ils avaient aussi un sujet de mobilité. Ils avaient un sujet de dire, mais moi, mes études sont à Villeneuve-d'Ascq, sont à Lille, à côté, etc. Comment je me déplace? Et justement, à côté de ça, on est en train, grâce à la métropole de Lille, à créer un tramway qui passe vraiment à 250 mètres d'écolocation. Et ça, tout ça, c'était le fait d'avoir juste un temps d'avance pour dire, regardez, avec la rénovation urbaine, on arrive à faire du beau un peu partout. Avec ce projet-là, on arrive à y remettre des jeunes et de l'associatif. Avec ce projet-là, on arrive à y remettre de la mobilité pour les jeunes. Sur la zone d'aménagement, on arrive à remettre des entreprises, des écoles. Finalement, réussir à répondre aux besoins des gens, c'est ce qu'on peut souhaiter à n'importe quel élu local. Réussir à répondre aux besoins des gens avant qu'ils vous posent la question, c'est vraiment le meilleur moyen d'y réussir.
Eh bien voilà, ce sera un mot d'espoir et le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous présenter ce beau projet. Merci monsieur le maire adjoint et maire de quartier. Je vous rappelle que ce podcast sera diffusé sur Radio Imo et Radio Territoria. Je vous souhaite une belle fin de journée sur le salon et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
En action pour le logement abordable et durable. À l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2025, Action Logement donne la parole aux élus locaux.